Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage de service public du samedi sur France Inter avec du son et du sens.
En direct du studio 511, une émission réalisée sans répression par Céline Hila, assistée de Lucille Valérie avec Michel Bézéquian à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, la confusion des peines avec des cris et des larmes à Paris quand la marche blanche en mémoire de Mireille Knoll tourne au chahut politique. Mais aussi de la colère quand moins de 10 ans après sa libéralisation, la Poste veut faire taire des facteurs contestataires.
On est venu pour quelque chose et là ça va dans n'importe quoi un peu. Marine Le Pen, elle a gâché le truc.
La colère déjà, c'est ça la Poste aujourd'hui.
Bon, ça n'a pas gâché parce qu'on est quand même là pour elle, on arrive chez elle derrière. Mais bon, c'est dommage.
Qu'est-ce qui se passe avec Gaël? Eh ben ça se reproduira lassablement tant qu'on n'ira pas leur péter la gueule. Voilà ce qu'il faut faire.
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent?
Les agents de la fonction publique, voilà l'ennemi. Il faut réformer, il faut plus de plans de départ volontaire, il faut accélérer le recrutement de contractuels, organiser des transferts au secteur privé, etc., etc., pour en finir avec la gabegie. Sans parler de l'audiovisuel public qui est la honte de la République. Et non, ce ne sont pas les intentions et déclarations de notre cher président.
Classement des plus grosses fortunes maintenant comme prévu. C'est un cheminot qui arrive en tête grâce à ses primes de charbon, ses primes de pas-primes, ses primes d'arrêt de travail, ses indemnités de somnolence, ses droits d'auteur sur la bête humaine. Une fois encore, il gagne largement plus qu'un PDG. Mais ça ne surprendra personne.
Et hop! Non, parce que lui, c'était pour déconner. Longue vie à l'ami Christophe Salengro. Non, ce n'est pas dans la présipauté de Groland que l'idée même de service public est remise en question, qu'il faut sacrifier l'intérêt général.
Après avoir multiplié les cadeaux fiscaux aux plus privilégiés.
Que l'on fait la chasse aux fonctionnaires.
5,5 millions de salariés, soit 20% de la population active.
Leur statut serait inapproprié. Et c'est bien chez nous que ça se passe. Alors, c'est l'intérêt général ou l'intérêt particulier qui doit l'emporter? Il y a confusion peut-être. Mais mercredi dernier, dans les rues de Paris, c'est une autre confusion qui régnait, Charlotte.
La confusion des peines, oui. Quand un hommage à une vieille dame juive assassinée tourne à la foire d'Empoigne, que des extrémistes juifs protègent la présidente du Front National et chassent les antiracistes, et que les cris de colère supplantent le sibilance qui s'imposait pourtant.
La colère et la confusion, non, ce n'est pas terminé quand on attise les clivages sociaux. Mais heureusement, la mobilisation sociale continue, oui, et de plus en plus. Du côté des cheminots, on l'a vu et entendu la semaine dernière, et aujourd'hui, c'est du côté des postiers que la colère gronde, give.
Oui, et avec 100 000 emplois supprimés en 10 ans pour les 851 millions de bénéfices cette année, la Poste a un train d'avance sur la SNCF en matière de libéralisation. Moins de 10 ans après son passage en société privée, plusieurs foyers de grève témoignent d'un profond malaise chez les postiers. Et dans les Hauts-de-Seine, cette mobilisation prend un écho particulier après l'annonce par le ministre du Travail de l'autorisation du licenciement du syndicaliste Sud-PTT, Gaël Quirante. En 14 ans, il est devenu le mouton noir de sa direction. Cet empêcheur de réorganiser en rond a été convoqué à 10 entretiens disciplinaires, subi 264 jours de mise à pied et 4 tentatives de licenciement, toutes retoquées par l'inspection du travail qui qualifie son licenciement de discrimination syndicale. Reportage sur une semaine de mobilisation dans la Poste et portrait d'un homme en lutte, fidèle au poste.
C'est comme un bruit qui court jusqu'à 17h sur France Inter, la confusion des peines dans la marche blanche et à la Poste.
Bonjour, 3 colis pour vous. Alors celui-là est un peu gros par contre.
Les réorganisations. Les facteurs les redoutent depuis leur mise en place en 2005.
De cette manière-là, nous faisons évoluer les compétences de tous les postiers d'aujourd'hui vers les métiers de demain.
Mais aujourd'hui, la colère chez les facteurs et factrices, elle est réelle.
Résistance !
La Poste veut lancer un service payant d'aide à la télédéclaration.
Résistance ! À la Poste, ils vont devenir inspecteurs du permis de conduire.
Des facteurs qui également apportent le pain frais.
On essaye de tout monnayer, le capitalisme prend beaucoup de pouvoir.
Le monde change et nos dispositifs doivent s'adapter et accompagner pour que chacun ne soit pas victime ou subisse les évolutions, mais au contraire soit acteur.
C'est visiblement la solution trouvée par la Poste pour faire face à l'explosion de la livraison, privilégier des prestataires quand elle devrait s'appuyer sur des emplois maison.
En 2 ans, la Poste a perdu 14 000 équivalents temps plein.
Après plusieurs suicides ou tentatives, les syndicats de la Poste dénoncent.
Eh ben ça se reproduira lassablement tant qu'on n'ira pas leur péter la gueule. Voilà ce qu'il faut faire.
Un salarié syndicaliste de la Poste, Gaël Quirante, se retrouve confronté à un licenciement dans lequel c'est Muriel Pénicaud en personne qui est intervenue.
Gaël aujourd'hui est victime d'une seule chose, de l'acharnement de la finance.
Guy Vontil.
C'est pas n'importe quelle situation à laquelle on a affaire aujourd'hui.
Charlotte Perry.
Là, c'est Gaël, risque la lourde.
Antoine Chao.
Et puis, c'est pas n'importe quel militant. Vous le connaissez tous.
Hashtag comme un bruit.
Donc Gaël Quirante, représentant départemental Sud Activité Postale et membre du Front Social.
Gaël Quirante, c'est quoi ton parcours à toi pour être syndicaliste aujourd'hui et te retrouver sous les feux de la répression syndicale, ministérielle, etc.
Bah écoute, moi mon parcours, c'est déjà, je suis rentré dans la boîte par le biais d'Adéco. J'étais intérimaire en fait. Puis après, je suis rentré en CDD et c'est par l'action syndicale. Un certain nombre de collègues qui étaient en CDD, on a été titularisés. Quoi. Donc très vite, si tu veux, j'ai compris que l'action syndicale était centrale si on veut défendre ses intérêts. Mais je dois te dire aussi qu'à l'université, moi j'avais fait le mouvement de novembre-décembre 95. Et c'est vrai que quand tu participes à des expériences comme ça collectives, tu touches du bout des doigts un peu ce que pourrait être aussi la possibilité de changer tout ça. On peut représenter une vraie force qui change ça. On n'est pas obligé de subir, on n'est pas obligé d'accepter ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, quand tu vis ça, dans le cadre d'un mouvement large, moi, je pense qu'il y a toute une génération là, en 2016 avec la loi travail, avec la nuit debout, qui a vu qu'il était possible d'être dans une autre logique individuelle, une autre logique que la concurrence, une autre logique que la loi du profit. Le problème, c'est la confiance dans est-ce qu'on peut gagner ? Voilà. Est-ce que c'est possible de changer ça ? Moi, j'y réponds de façon assez simple à cette question-là. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix. Ou on laisse dégrader tout, ou on laisse se faire bouffer, ou on laisse la logique du profit, ou on essaie de se battre et de relever la tête. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que de relever la tête. Ils tapent. Ils sont très forts, mais nous, on se rend compte qu'en fait, en face, ils sont pas si solides que ça. Donc oui, le parcours, c'est le parcours de quelqu'un qui s'est pas laissé faire, qui a connu des expériences collectives et qui vient d'une famille aussi de militants espagnols qui ont risqué un peu plus que juste un emploi, quoi, pour défendre des valeurs et des idées qui sont importantes. Les collègues, les camarades, les amis. Donc j'ai récupéré le recommandé ce matin et c'est bien l'autorisation de la part de la ministre du Travail de me licencier. Donc on est en colère, je suis en colère, mais très loin d'être abattu. Et on va dès lundi appeler à la grève dans tous les services du 92. Et lundi soir à 19h devant le ministère Métro Varennes, montrons-leur de quel bout on chauffe, qu'on n'est pas abattu. Merci à vous.
Un grand bonjour et un merci à l'ensemble des camarades qui sont là. On va commencer le rassemblement contre le licenciement de notre camarade Gaël Quirante, secrétaire de Sud-Poste 92. Aujourd'hui même, il y a plus de 200 camarades, collègues, postiers du 92 qui se sont mis directement en grève et qui ont reconduit la grève pour demain. Le licenciement de Gaël ne passera pas. Il ne passera pas parce que vous êtes là.
Bah oui.
Salut vous.
C'est elle qui m'a donné le recommandé, elle était dégoûtée.
Ouais, c'est quand je l'ai ramassé au guichet, elle était dégoûtée de me donner le recommandé. C'est pour rien. Hein.
Gaël Guérante, voilà, il y a des soutiens qui viennent vous retrouver. On est devant le ministère, c'est lundi, le ministère du Travail, où siège Madame Pénicaud, parce que voilà, après 11 ans de procédure, 4 demandes de licenciement qui ont été 4 fois retoquées par l'inspection du travail. Et voilà que Mme Pénicaud a franchi le Rubicon et a décidé que vous seriez licencié.
C'est un acharnement et c'est une décision politique. Voilà, c'est simple. L'inspection du travail avait clairement établi qu'on ne pouvait pas me licencier puisqu'il y avait un lien avec mon mandat et que les faits n'étaient pas suffisamment graves. Lien avec le mandat, puisqu'elle établissait que sur 10 ans, j'étais victime de discrimination syndicale. De façon très étayée, on a les documents. Ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'accepte pas, c'est que quand la décision de l'inspection du travail est mise en appel de la part de la Poste, eh bien, une contre-enquête qui se met en place.
Menée par les propres services de Madame
du
la ministère. Ministre.
Et donc, dans cette contre-enquête, le rapport dit quoi ? Il confirme dans tous les aspects ce que disait l'inspection du travail. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, je me retrouve aujourd'hui à la merci de la décision de Muriel Pénicaud, ancienne DRH de Danone, et qui en réalité prend une décision politique, c'est-à-dire un permis de licencier pour la Poste, parce qu'aujourd'hui, elle file un coup de main eh bien, à tous les employeurs, parce qu'on est beaucoup en train de parler du statut de cheminot et autres. Le passage en société anonyme, est-ce que c'est si grave et autre ? Nous, à la Poste, on est passé en société anonyme il y a 9 ans. on peut vous dire ce que c'est.
Avec des garanties qui avaient été données, que garder le modèle social de la Poste.
Mais la vérité des prix, c'est quoi? C'est une détérioration de conditions de travail, c'est 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans, c'est ça. Hein, c'est-à-dire en termes de PSE, c'est pas mal, 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. On a recensé sur la région parisienne, cumulé entre les syndicalistes Sud et CGT, juste ceux qu'on connaît, hein, sans parler de nos collègues qui ne sont pas syndiqués, on a recensé 10 ans de mise à pied cumulée depuis 2012. Bon, c'est juste dingue. C'est-à-dire qu'on est, quelque part, un retour vers le futur de ce que va avoir la SNCF. Et ce retour vers le futur, aujourd'hui, on ne l'accepte plus.
Ces postiers sont en grève pour crier leur ras-le-bol.
En 2 ans, la Poste a perdu 14 000 équivalents temps plein. Et sur la dernière décennie, 8 000 bureaux ont fermé leurs portes.
Pour l'intersyndicale, c'est le management en cours à la Poste qui est en cause. Rentabilité, productivité, travail à flux tendu et donc pression sur les salariés. Transformer le modèle économique de la Poste, oui, mais à quel prix?
Donc pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut l'entreprise? Elle sait qu'il y a plein de bagarres à la Poste, longues, reconductibles, sur plusieurs journées, contre les restructurations, contre les suppressions d'emplois. Vous avez vu là les collègues de Rennes, les collègues de Bordeaux, ils sont en bagarre. Certains rentrent dans leur 3e semaine à Bordeaux, plus de 70 jours à Rennes. Pourquoi? On veut détruire ce qui est le cœur de notre métier. Et en fait, ils n'en ont rien à faire du service public. Ils indiquent clairement aux facteurs et aux factrices de dire on n'est pas assez, c'est pas grave. Tu distribues pas tous les jours, tu distribues une fois sur deux. Parce qu'une fois sur deux, en fait, l'usager, il ne fait pas forcément gaffe. Donc tout ça, on veut remettre à plat. Cette entreprise a fait 851 millions d'euros de bénéfices nets. Bon, moi j'ai 15 ans de boîte, je suis à 1300-1400 euros net. On est juste au-dessus du SMIC. La boîte a englouti des millions et des millions d'euros de CICE sans aucune garantie d'emploi. Pire, en ayant supprimé en fait des emplois. Il faut qu'on les stoppe. Aujourd'hui, les postiers et les postières du 92, on est l'expression de poches de résistance qui ont réussi à empêcher. Nous, on n'a pas de réorganisation depuis 2 ans. La sacoche, la méridienne, le fait de modifier les jours de repos, ça n'existe pas chez nous. Mais ça n'existe pas parce que nos patrons sont plus sympas. Ça n'existe pas parce qu'on est parti en grève reconductible en 2009, 70 jours, en 2010, 66 jours, en 2011, en 2012, en 2014. Et que de fait...
C'est peut-être pour ça que la direction veut se débarrasser de vous.
Ah, écoutez, c'est ce qui est évident en tous les cas, on ne laissera pas et on ne permettra pas que ce soit l'employeur qui détermine qui c'est qui peut intervenir et qui c'est qui peut représenter les salariés de l'entreprise.
À ceux qui veulent licencier Gaël, les postiers répondent. Ils répondent quand?
Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais.
Deux petits éléments d'information. Premièrement, le licenciement de Gaël n'est pas encore effectif. La ministre du Travail vient de donner le feu vert au licenciement de Gaël. Mais techniquement, Gaël n'est pas encore licencié, il est encore officiellement postier.
Tous ensemble, ouais, ouais.
Il y a des postiers grévistes qui font l'effort de faire des centaines de kilomètres. Et c'est eux qui vont parler en premier, les grévistes du département du 35 qui sont là et qui sont en grève depuis plus de 70 jours. Carnot, au nom des grévistes du 35 et du PKT 35 à parler là-bas.
Salut à toutes et à tous. La colère déjà, pour parler de la colère, c'est ça la Poste aujourd'hui. Quand on parle de licencier Gaël, nous effectivement on est en grève depuis 77 jours en Ille-et-Vilaine. On pourrait parler de la Mayenne près de chez nous, on pourrait parler de la Gironde, mais aujourd'hui la colère chez les facteurs et factrices, elle est réelle.
Tous ensemble, ouais, ouais.
Je vais donner la parole à Olivier Besancenot.
On a un pouvoir politique qui s'est mis en tête, qui pouvait démarrer son quinquennat en faisant une tête au carré à tout ce qu'il y avait de plus combatif dans le mouvement social. Les étudiants, les cheminots et tous ceux qui auraient tendance à trop l'ouvrir. Ça veut dire que si Gaël prend la lourde, n'importe quel militant combatif ou militante combative du mouvement social pourra la prendre demain, quels que soient les avis rendus par l'inspection du travail. Solidarité et amitié à toi Gaël, on sera derrière toi, merci à tes beaucoup. Côtés à chaque fois.
La Poste, aujourd'hui, on supprime les emplois. La Poste, elle embauche les précaires.
Moi je suis Pierre, représentant du personnel dans le 78 à la Poste.
Et moi, ce que j'ai envie de
Moi c'est Vincent, représentant départemental CGT.
Et moi c'est Fabien, je suis le responsable des facteurs sur les Yvelines.
Et alors vous venez de prendre la parole, vous n'êtes pas dans le même syndicat, vous n'êtes pas dans le même département, mais vous êtes dans la même entreprise de La Poste. Et vous aussi, vous avez maille à partir avec un management qui, semble-t-il, n'aime pas les têtes qui dépassent.
Ah ça c'est clair qu'ils n'aiment pas les têtes qui dépassent, et bah, le problème c'est que nous deux, on est grands, alors la tête, elle dépasse pas mal. À La Poste, ils nous ont frappés, donc deux fois une semaine. Juste parce qu'on avait fait ce qu'ils appellent des prises de parole. Et selon eux, une prise de parole, c'est à partir du moment où on parle avec plus de deux personnes. Donc dès qu'on est trois, on fait une prise de parole. Et à partir de là, ils nous avaient mis encore une fois une semaine de mise à pied.
Sanctionnés pour avoir parlé à plus de deux personnes.
Exactement, c'est ça le discours. Alors nous, on a quand même flippé pour les collègues, parce que quand ils disaient « Oh, c'est le café, les copains !» Ils étaient forcément à plus de deux, trois. On s'est dit « Merde, ils vont tous passer en conseil de discipline. » Mais a priori, non, c'est que les syndicalistes qui nous cognent dessus.
Mais je comprends pas, parce que pourtant, la Poste va bien. La Poste réalise des bons résultats.
Ah bah, elle a encore battu des records historiques en 2017 avec 851 millions de bénéfices.
Mais plein de nouveaux services, je vous coupe. Maintenant, La Poste s'occupe des personnes âgées que personne ne va voir.
Alors voilà, ça c'est un énorme problème parce que nous, les personnes âgées, les facteurs, ils allaient les voir quand on avait des tournées à peu près correctes, qu'on avait un peu de temps. Et on continue à le voir. Maintenant, vous payez, si vous n'avez pas de fric, bah, vous ne pouvez pas l'avoir. Ça veut dire que la petite grand-mère qu'on voyait de façon tout à fait normale, on n'aura plus le droit d'y aller parce qu'on est en train de faire un service gratuit, alors que maintenant on le paye. Il faut payer. On va dire à la dame, bah maintenant votre café, bah ça va être 50 balles par mois pour nous payer un café au facteur. C'est quand même extraordinaire, quoi.
Lui, c'est mon père. Et lui, c'est Julien. Il ne vient pas que pour le courrier, il vient passer un peu de temps avec lui. Tout cela pour 39,90€ par mois. Parlez-en à votre facteur.
C'est fini maintenant l'humain.
La semaine dernière, on était encore avec les cheminots de Versailles et justement, on leur disait que les copains, si vous vous battez pas, ce qu'ils nous ont fait à La Poste, c'est pour vous. C'est-à-dire 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans, de la sous-traitance à gogo, où on a des plateformes industrielles, où on a jusqu'à 95% de sous-traitants, la suppression de la qualité de service, la flexibilité à gogo. C'est exactement la même chose. Toutes les entreprises qu'on avait et qui rendaient un service aux gens, ils sont en train de les vendre au privé pour réaliser du pognon. Et ça, il faut vraiment que les gens le comprennent.
Merci beaucoup. C'est au tour de Jean-Luc Mélenchon et Éric Coquerel pour La France Insoumise.
Madame Pénicaud, dans cette circonstance, est à l'image de la violence de classe qu'elle incarne personnellement.
À ceux qui veulent licencier Gaël, les postiers répondent.
C'est
au tour de Mickaël Moimane.
C'est de l'acharnement politique. Il faut couper les têtes de celles et ceux qui permettent de crier haut et fort partout qu'on peut créer le tous ensemble dans un pays où jamais le ras-le-bol n'a été aussi élevé.
Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais.
Les camarades, donc le rassemblement va toucher à sa fin. Évidemment, le combat est loin d'être terminé. On va très très rapidement prendre de nouvelles initiatives. Et pour organiser la grève de demain, donc les camarades postiers et postiers du 92, rendez-vous juste devant le camion pour organiser les opérations de la grève de demain. Merci à vous les camarades et à très bientôt. On lâchera du tout.
Heureusement qu'il y a des postiers.
On est heureux quand on les voit.
Qu'est-ce qu'on ferait s'ils n'existaient pas? On serait tous dans l'embarras.
Les postiers, les postières sont populaires. En ville, à la campagne, jusqu'en haut des montagnes. Les copains d'Iligo, faut faire le distinguo. Faut pas tout mélanger, chacun son boulot, son métier.
Laissez-vous guider, laissez faire. Elles ont leur raison, la manière.
Les auxiliaires, les préposés bien disposés, qui trient les lettres et les colis pendant qu'on dort la nuit.
Tout le monde aime bien les postiers, tiers, tiers. Il y en a qui préfèrent les postières, tiers, tiers.
Ils sont souriants et sympathiques, on est heureux quand on les voit.
Qu'est-ce qu'on ferait s'ils n'existaient pas? On serait tous dans l'embarras.
C'est une drôle d'adresse ici. On est au 1848, comme l'année de la Révolution. 1848, rue Vieille du Pont de Sèvres. Devant un centre de distribution de la Poste du 92. Il est très très tôt, à peine 6h du matin. C'est l'heure où on embauche pour certains, mais c'est aussi l'heure où beaucoup de postiers se retrouvent parce que c'est la grève en soutien à Gaël qui rentre suite à l'avalisation de son licenciement par Muriel Pénicaud, ministre du Travail.
Oui, les faits à l'origine du courroux de la Poste remontent, semble-t-il, à 2010 où plusieurs salariés, dont Gaël qui rentre, auraient séquestré des cadres pendant 2 heures lors d'un mouvement de grève. De son côté, le salarié concerné avance qu'il s'agit d'une décision politique qui aurait pour but de casser un syndicalisme combatif. Donc, ce n'est pas gagné, Raphaël.
Moi, je suis Bertrand, membre CHCCT, représentant local de Sud et facteur. Mais là, c'est un bureau depuis 2009 qui était calme, où le courrier passait, on arrivait à discuter avec l'ancienne direction. Là, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ne veulent plus discuter, ils veulent qu'on obéisse et c'est tout. Donc voilà, donc là ils mettent les répressions, sanctions à tout le monde. Vous pouvez demander, hein, lui il s'est pris un blâme, un avertissement, un blâme, parce que jeudi il a fait grève, le Grand National, il a fait grève. Vendredi le courrier il n'a pas été passé, jeudi, vendredi on lui a demandé de passer le courrier. Il a dit qu'il ne pouvait pas le passer tout d'un coup, mais c'est mal temps, il s'est pris un blâme. Le nouveau directeur là.
C'est celui qui est passé et qui nous a serré la main?
Non, ça c'est numéro 2 ça, qui vient d'arriver. Le nouveau directeur, depuis février 2017, il a mis environ une quarantaine de sanctions disciplinaires au niveau local. Il a fait licencier 2 personnes. C'est pas isolé, quoi. C'est pas 2-3 personnes, c'est l'ensemble du bureau. Voilà, et là le problème. Ce qui se passe à Boulogne, ça se passe dans les autres bureaux du 92, mais ça se passe partout en Ile-de-France et même en France. Il y a une répression au quotidien, une volonté de faire plier, de faire changer le métier des facteurs, quoi. On accepte le changement de métier, quoi. Moi, je suis arrivé en 95 à la Poste en fonctionnaire. Notion de service public, elle existait pour moi. C'est pas qu'une notion, c'est une vérité, c'est au quotidien. Maintenant, c'est plus ça. On vient maintenant des prestataires de services, en fait. On ne devient plus des facteurs. On devient des prestataires de services à la personne, voilà, quoi. On va faire un tas de travail, mais plus distribuer du courrier, quoi. C'est ce qu'ils veulent.
Pourquoi ?
Ils disent qu'il y a une baisse de trafic. Alors, c'est vrai qu'il y a une baisse de trafic, mais elle n'est pas si énorme que ça. Et ce qu'ils veulent, c'est avoir plus de rentabilité, plus de bénéfices, quoi. C'est tout, quoi. C'est plus un service public. C'est une entreprise privée qui veut juste des bénéfices. D'ailleurs, ils ne disent plus les usagers, ils disent les clients maintenant. C'est fini. Le mot usager, il est banni à la Poste. Il y a quelques anciens comme nous, qui les facteurs, qui l'utilisent encore.
Mais,
ouais.
Tu donnes le start ?
Ah bah on y va, au moins.
Bah allons-y alors.
Monsieur, on va y aller ? Monsieur, dame ?
Des postiers appelés à faire grève aujourd'hui, les syndicats qui mettent des mots, politique de flexibilité, souffrance au travail.
Gaël ?
Ouais.
Lundi, on était devant le ministère du Travail.
Tout à fait.
Et là, je vous retrouve à 6h et quelques du matin.
Bah déjà, on est un peu mieux parmi les postiers et les postières que devant les ministères. Et bah oui, on va voir les collègues à la fois sur la procédure de licenciement, hein, c'est ce qu'on disait. Ce qu'on va mettre sur le devant de la scène, bah, c'est toutes les réorganisations, les restructurations, les suppressions d'emplois. Réorganisation et restructuration qui n'ont ni queue ni tête, voilà, et ça a généré et créé rage et colère, et surtout ce que ça va faire, c'est que ça va mettre en avant aujourd'hui nos revendications. On va se battre pour nos conditions de travail.
Donc là on est rentré à l'intérieur du dépôt.
Des tournées de distribution de courriers à rallonge, impossible à terminer, de nouvelles missions imposées sans concertation. La transformation du métier de facteur se fait aujourd'hui à marche forcée.
Alors on rentre dans les bureaux derrière la Poste.
Oui,
ici, là.
C'est le centre de tri avec les positions de travail de chaque facteur. Et là c'est le tri général ici.
Alors on voit les gros paquets. Monsieur, bonjour.
Allez, vous êtes courrier, ça va durer 10 minutes. Et voilà quoi.
Ah, ça s'échauffe là dans le centre de tri. Il y a ceux qui sont en train de s'activer à faire le courrier.
Monsieur, vous êtes
bonjour. Moi je suis journaliste.
Oui,
France Inter. Et... Je suis une action syndicale.
Ah d'accord. Je ne sais pas si je peux vous laisser ici. Donc,
Renseignez-vous, vous verrez.
Nous écrivons pas d'incident. De toute façon, on enregistre tout.
Donc,
ça sera bien fait. Vous avez le droit de réponse. Ne vous inquiétez pas.
Mais par contre, c'est, vous... hey, monsieur, si vous voulez me dire un mot, moi, je suis tout à fait prêt à avoir la voix de la direction.
Je ne perturbe pas trop le boulot. Je veux juste qu'il fasse ça rapidement. On peut s'exprimer 10 minutes max.
Ça, c'est le sous-directeur.
S'il vous plaît, avant la prise de parole de monsieur Quirante, je voudrais juste que vous respectiez pour ceux...
qui souhaitent travailler, qui ne veulent pas faire grève, d'accord ? Un temps de parole de 10 minutes.
Pas de problème. Mais bien, vous savez, c'est toujours comme ça. Ceux qui veulent travailler, on laisse travailler. Et d'ailleurs, on incite les jours de grève à faire que les cadres travaillent encore plus que d'habitude. Voilà, n'hésitez pas. Et adressez-vous au syndicat qui défend tous les salariés, y compris les cadres, Sudpost 92. Bon, juste et d'abord, on est venu avec une majorité de collègues de Boulogne qui sont mis en grève hier et qui ont fait le choix de reconduire la grève. On est venu pour expliquer les motifs de la grève et pour appeler à ce que l'immense majorité des collègues de Boulogne qui continuent à taffer rejoignent la grève. On est dans ce cadre-là totalement dans la décision de justice de mars 2009 qui permet, dans le cadre d'un conflit collectif, que des grévistes puissent s'adresser à des non-grévistes au travers d'une prise de parole. Bon. Pourquoi on est là, les collègues ? Pour deux raisons. La première d'entre elles, qui est centrale, la boîte sur cet établissement à Boulogne, mais fait n'importe quoi. La boîte veut remettre en place une nouvelle réorganisation ici. Ils veulent modifier de façon drastique, complète, totale, ce que sont nos conditions de travail. Et en réalité, en faisant ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils modifient de façon drastique, totale, ce que sont nos conditions d'existence. Là, il faut qu'on relève la tête. Juste pour dire, les collègues, on va pas se raconter de salade, moi j'ai pas envie d'être licencié. Mais vous savez très bien que depuis 15 ans, ce qu'on fait dans cette boîte, c'est mettre en avant, et c'est bien pour ça qu'ils essaient de nous licencier, c'est mettre en avant les intérêts de tous les collègues. On peut nous apprécier, pas nous apprécier, mais notre style ou pas. Mais une chose qui est claire, c'est que tout le monde sait qu'ici, on n'est pas des vendus. Donc là, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'ils ont appuyé sur un bouton en se disant ils vont faire peur à tout le monde. Mais le bouton sur lequel ils viennent d'appuyer, c'est lequel ? C'est toute la merde qu'il y a dans cette entreprise. Toute la détérioration de nos conditions de travail. Bertrand le dit souvent, dans ce bureau-là, on parle des sous-effectifs, il nous parle de faire des heures sup obligatoires, le nombre d'intérimaires qu'il y a, le nombre de CDD qu'il y a. Pourquoi ils ne les embauchent pas ? Pourquoi ils ne les titularisent pas ? Que pour nous, il n'y a pas de distinction, quel que soit le statut des collègues qui sont au boulot.
Pour un concurrent.
Hein ? C'est-à-dire, pourquoi ? Ça y est, vous êtes convaincu, vous mettez en grève ?
Non.
Non ?
Par contre, je demande juste un instant.
Parce que...
personnes qui sont sorties du TG, s'il vous plaît.
Bon, ça fait les 10 minutes.
Je ne connais pas.
Je reprends juste l'organisation. Les autres personnes
pas de problème.
Qui souhaitent continuer d'écouter...
Un mètre de problème. Voilà. Bon, prenez votre place, quand même.
Ah oui, là, c'est le sous-directeur qui veut évacuer tous les grévistes qui sont là au centre de tri général. Il dit, vous avez vos 10 minutes pour parler, maintenant vous dégagez. Et forcément, les salariés ne sont pas très contents.
Très bien. Tout le monde vous a entendu. Le gars est en train de te dire que t'es en faute parce que t'écoutes une prise de parole. Faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Donc aujourd'hui, les collègues, l'occasion que vous avez là... Elle va pas se représenter. Dès le premier jour de grève, il y avait un rassemblement devant le ministère qui était énorme. Il faut qu'on utilise ça, pas pour justement défendre ma gueule, mais pour défendre nos conditions de travail à tous. Mais ça, les collègues, ça se fera pas sans le fait qu'on bouge notre cul, nous, et qu'on se mette en grève. Donc oui, les collègues, ça discute, ça mamaille. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu. L'appel qu'on fait, il est simple, clair, net et sans bavure. C'est que personne ne tape aujourd'hui. Voilà, personne ne taffe aujourd'hui. Et il faut que les autres collègues rejoignent cette grève.
Sincèrement, aujourd'hui, pour ceux qui travaillaient, qui ont travaillé hier et avant-hier, rejoignez le mouvement. C'est important ce qui va se passer.
Prénom
Xavier.
Xavier, ouais. Vous bossez sur ce centre-là?
Non, moi je suis de Levallois. Je dépends du service CEDEX qui a été délocalisé sur Villeneuve-la-Garenne. Et donc là aujourd'hui on est en soutien avec Gaël. Ils ont réveillé beaucoup d'énervement sur tout le département. Il y a beaucoup de gens, des gens comme moi, qui d'habitude ne sont pas là en prise de parole ni quoi que ce soit, et qui sont là, sortent du casier et défendent nos droits.
Parce que quoi? Parce que le personnel de la Poste
sont... En fait, ils essayent de transformer le métier postal. Ça va de sortir son chien, de surveiller des personnes âgées. Voilà, c'est notre boulot. Moi quand j'ai signé il y a plus de 15 ans maintenant à la Poste, c'était pour distribuer courrier, pour avoir du contact avec les usagers. Moi j'ai signé pour ça, j'ai pas signé pour devenir commercial, monter du matériel médical, c'est ce qu'ils veulent mettre. Je suis postier, c'est un métier qui me plaît, que j'aime. dès qu'on ose dire que ce qui se passe à la poste, c'est pas normal. On a des pressions managériales qui veulent nous obliger à faire tout et n'importe quoi, des répressions sur nos dirigeants syndicaux, sur nous-mêmes, et il y a des suicides. Et maintenant, c'est du tout et n'importe quoi. C'est ce qui peut emmener la SNCF. C'est ce que je pense que le gouvernement essaie de faire aussi. Nous, on a l'expérience, on voit ce qui se passe aujourd'hui. L'ambiance postale, en ce moment, c'est du grand, grand, grand n'importe quoi.
S'il y a un moment pour partir en grève, c'est maintenant.
Les collègues, sérieusement, ça vous énerve pas? Mais moi, ça m'énerve, sérieusement. Moi, de vous voir comme ça, vous imposer au milieu, de jouer les gros bras, moi, ça, c'est un truc qui me fait partir en grève tout de suite. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous faites qu'envenimer la situation? Laissez-nous discuter directement. On parle tranquillement entre collègues.
Non mais c'est pas pour partir un mètre, hein. Sérieusement, faut arrêter.
Allez, c'est le sous-directeur qui ne veut pas quitter l'espace où les salariés sont en train de décider si oui ou non ils vont se mettre en grève. Et il fait les allers-retours au milieu des salariés pour montrer qu'il est là.
Moi je vais partir, je vais me mettre en grève, tu vois, avec tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Jusqu'à 17h sur France Inter.
Il y a des bœufs qui se perdent.
Comme un bruit qui court.
Juste, tous ceux qui sont dans la salle sont en grève, on est bien d'accord.
Il en a tellement bavé pour arriver jusque-là. À lui de nous faire trimer, car ici, il a tous les droits. Il règne en maître sur ce service. S'il pouvait, il pisserait autour. Ce pantomime de l'entreprise, avec son pantalon trop court. Petit chef. Petit chef. Petit con. On en croise à tous les échelons, en uniforme, en chemisette. Ces apprentis de l'humiliation, ces artistes de la courbette. Petit faillot, roi de la frime, ils sévissent ces petits chefs dans les couloirs des entreprises, à l'affût de nos faiblesses. Chef de service, chef de département, chef de projet, chef adjoint. Ils rêvent de grade de promotion, d'un salut de la direction. Et avec leur bénédiction, ils jouent les espions dans les rayons. En quête d'une information, ces chasseurs de primes des temps modernes évitent sagement les décisions, mais traquent les cravates de travers. Chef de secteur, chef d'entreprise, chef de pub, chef d'établissement, sergent-chef, petit chef. Petit con.
Non mais là, on prend nos caisses, on va tous à Levallois, on fait une AG collective. Quand on est nombreux, on voit des perspectives, on serre les coudes, on voit la possibilité que ça donne de pouvoir faire une action.
Bon, on fait le covoiturage lumière, d'accord?
S'il n'y a pas de place, moi j'ai une grande voiture. C'est une voiture spéciale grève en fait. J'ai un homme, tu vois, je vais emmener des grévistes.
Bonjour, Yacine, c'est ça?
C'est ça, ça fait 4 ans que je suis en CDI. C'est la première fois que je suis dans une grosse boîte. C'est la première fois que je vois que les patrons, ils sont pas si gentils que ça avec les salariés. Et puis c'est là où j'ai connu Gaël et les syndicats et je me suis en quelque sorte engagé.
Parce qu'avant, vous ne faisiez pas de politique ou pas de militantisme?
J'ai jamais eu l'occasion de mobiliser avant ça, j'y pensais même pas. Je voyais ça à la télé. Puis quand ça nous touche vraiment et quand on est dedans, c'est là où on voit l'importance de tout ça. Par rapport aux dirigeants, comment ils nous prennent de haut. Alors qu'on voit tout ça, voilà, l'injustice, moi ça me touche vraiment et puis je suis prêt à combattre ça, quoi.
Et voilà comment vous vous retrouvez maintenant engagé vous aussi dans les luttes syndicales.
Exactement. Et c'est voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, même si je perds de l'argent, même si c'est la galère pour tout le monde avec la paye qu'on a. Et...
Je suis combien d'ailleurs?
Je suis entre 1200 et 1300. Quand on a un loyer de 750 euros, un crédit à côté, l'assurance, tout ça. Voilà, la paie, elle part vite. Mais il faut continuer à se battre, sinon bientôt, j'aurai plus rien, quoi. Voilà. Moi, perso, avant de rentrer à la poste, je voyais pas tout ce qui se passait.
Vous aviez encore l'image du service public, voilà, des fonctionnaires exactement. Avec la sacoche.
Exactement. Et c'est en rentrant à la poste que j'ai appris tout ça. Et...
On avance pour aller retrouver les autres, quoi. Parce qu'ils sont en train de partir pour aller à Levallois, c'est ça?
À Levallois, pour retrouver tous les autres groupes et puis pour mettre en place une stratégie d'attaque, quoi.
Gaël Demeaux, Bon, là, ça a été difficile de démarrer. C'est tout le boulot du syndicaliste, mais c'est de faire sortir du bras de fer et du regard de la direction qui était là et qui faisait les 100 pas en train de surveiller qui l'ouvrait ou pas, pour finalement engager le mouvement et la mobilisation.
On nous dit souvent aujourd'hui, le salariat, c'est vachement compliqué de partir en grève, vu nos salaires et compagnie. Mais en fait, à la Poste, c'est pas des grandes concentrations. Tu vois bien que c'est des concentrations qui sont atomisées. On est éloigné sur un département qui est extrêmement grand. Mais oui, le boulot des syndicats, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils s'attaquent à nous, c'est que notre but, c'est pas de rester dans le truc corpo, c'est de regrouper, c'est de donner confiance. C'est de montrer qu'en réalité, on peut relever la tête et que face à un chef, face à un cadre, il n'y a pas de raison qu'on nous traite comme des moins que rien. Comme si on était en fait des boulons, quoi. Et tous ces collègues-là, et c'est aussi la force de la grève, en fait. La force de la grève, c'est pas juste de bloquer. La force de la grève, c'est que ça nous transforme. De comprendre qu'en fait, on n'est pas faible. Et quand on se regroupe, on peut faire d'autres choses. Et qu'il y a la possibilité d'avoir d'autres relations sociales que celles de l'autorité, de la pression, de la peur, de la crainte. Ça veut dire surtout que Mme Pénicaud, elle a peut-être un peu sous-estimé ce que sont les postiers et les postières, et surtout les conditions et la détérioration des conditions de travail. Il ne faut pas oublier ce chiffre en 10 ans, 100 000 suppressions d'emplois, alors que la Poste engloutit des millions et des millions d'aides au CICE. Donc, pour ceux qui dirigent une entreprise ou un gouvernement, voire des gens qui s'attaquent à la racine du mal et qui veulent remettre à l'endroit un monde qui fonctionne à l'envers, ça ne fait pas plaisir et ils essayent d'éradiquer. Mais c'est pas du tout gagné pour eux. On va continuer, on va leur montrer qu'on est capable de gagner.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Merci, à suivre.
Ouais.
Oui, les postiers en grève, une affaire à suivre et dès la semaine prochaine très certainement puisque je suis en ce moment en Gironde avec les postiers en grève de la plateforme de tri de Farges-Langon. 20 centres de tri sur 67 ont débrayé dans la région.
Alors pour l'instant, il y a Langon-Laréole, Coutras, Floirac, Senon, Blanquefort, Lespard, Pauillac, Bordeaux-Bastide, Mériadec, Gujan, Arcachon, Biganos, il y a Sestas aussi, il me semble. Enfin, on attend la liste définitive, mais c'est une vingtaine de bureaux actuellement.
En tout cas, c'est les postiers de Gironde, d'Ille-et-Vilaine et des Hauts-de-Seine donc, qui ont décidé de converger leur lutte et qui se donnent rendez-vous au Front Social le 7 avril prochain à la Bourse du Travail. Dans le 92, la grève est reconduite jusqu'à mardi inclus pour rejoindre les cheminots dans leur manif et une caisse de grève est lancée sur le site lepotcommun.fr.
De la sanction au chagrin, une autre peine maintenant d'un autre ordre et assortie de beaucoup de confusion. C'était mercredi dans la Marche Blanche en mémoire de Mireille Knoll. Tu y étais, Charlotte ?
Oui, des milliers de personnes étaient rassemblées place de la Nation mercredi pour marcher vers le domicile de la vieille dame assassinée. Le deuxième crime antisémite en moins d'un an dans le 11e arrondissement. Un rassemblement dans lequel le silence et le recueillement auraient dû être de mise. Mais la confusion règne, symptôme peut-être de notre époque tordue. Déjà, quand le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, s'arroge le droit de décider qui peut et qui ne peut pas participer. Ensuite, quand un groupuscule ultra-violent, la Ligue de défense juive, protège la présidente du Front National et chasse les antiracistes de la France insoumise. Enfin, quand la famille de la victime appelle à l'Union nationale et que c'est la division et les cris qui l'emportent. Écho donc de cette marche blanche qui tourna au chahut politique.
La surreprésentation des antisémites tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite rend ces deux partis infréquentables.
Dans l'immeuble, beaucoup connaissaient l'histoire de Mireille Knoll, qui avait échappé en 1942 à la rafle du Veldir.
À nos yeux, ils sont infréquentables, et s'ils sont infréquentables, alors ils sont allés bienvenus à cette manifestation.
L'assassinat de cette octogénaire est bien un acte antisémite selon le parquet. Son fils s'exprime avec émotion.
Nous appelons tout le monde, je dis bien tout le monde, sans exception.
Sans exception. Vous n'êtes pas sur la position du CRIF ?
Absolument pas.
La LDJ, c'est ce groupuscule de jeunes radicaux.
elle est le principal fer de lance d'une forme radicale de nationalisme religieux juif situé à droite de l'échiquier politique.
Mais alors la dialogique, quel rapport?
Je vous dis que vous n'avez pas le droit d'empêcher des gens de manifester.
Bien sûr aussi, quand tu craches sur Israël, bien sûr qu'on a le droit. Vous n'êtes pas le seul à avoir souffert.
Effectivement, ça a été extrêmement tendu à l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon.
Enculé, insoumis, enculé, 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 enculé.
Vous êtes des salauds. Qui est salaud? Elle dit qu'on est des salauds, France Insoumise.
Elle est où?
Non, il y a Garrido, tout le monde là-bas, là.
Qu'est-ce qui se passe, en fait? Il y a la France Insoumise là-bas.
Vous êtes qui, vous? Radio France,
ah, service public. Ouais, ouais. Ce que j'arrive pas à voir.
Non,
en fait.
Mais alors, dans ces cas-là, est-ce que vous pourriez prendre juste une quelque chose de véridique, hein? Moins de 20% des Juifs de France se sentent représentés par le CRIF. Il y a un véritable désamour entre les Juifs de France et le CRIF. Parce que le CRIF, depuis un bon moment, n'a pas ce souci de résistance que nous demandons. Regardez, aujourd'hui, le local du syndicat de l'UEJF, de l'Union des étudiants juifs de France, a été tagué avec des tags antisémites. Maintenant, nous savons qu'il s'agit d'islamo-gauchistes, c'est-à-dire de gauchistes pro-palestiniens, et non pas des habituels frontistes. Depuis un bon moment, les frontistes ne nous ont pas abrité. Disons les choses. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous apprenne à résister. Sachez une chose, il y a entre 35 à 40 000 enfants juifs qui ont dû quitter les écoles républicaines pour des raisons de sécurité. Et j'en parle en connaissance de cause.
Est-ce que ça a été votre cas?
C'est arrivé à mon fils. Il a été faire pipi, ils ont vu qu'il était circoncis mais qu'il n'avait pas le look juif. Ils l'ont attrapé dans la cour d'école, ils l'ont massacré. Boulevard de la République.
Vous l'avez sorti de l'école?
Bien sûr. Maintenant, il a fait l'armée, mais en Israël. Il a appris à se défendre.
Et du coup, vous vous sentez représenté, vous, par d'autres organisations?
Pour le moment, non. On appelle à... Moi, je tiens à l'Union Sacrée. On a un problème ensemble, c'est-à-dire juifs et non-juifs contre la peste islamique. Eh bien, maintenant, nous devons combattre ensemble en qualité de Français qui voulons qu'il n'y ait absolument aucun accommodement raisonnable en ce qui concerne l'islam et qu'il n'y ait plus de terrorisme sur la France. Donc, moi, je viens en qualité de juive, d'accord? Mais je m'estime d'abord française et fière de l'être.
D'abord, moi, je voudrais dire que s'il existe une ligue de défense juive, c'est qu'il y a un grand nombre de juifs qui se sentent en insécurité.
On rappelle que la LDJ, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, et qui se sont d'ailleurs vantés d'avoir permis à Marine Le Pen de manifester, donc on voit bien de où sont leurs orientations, sont interdits pour leur violence en Israël et aux États-Unis.
Ça, c'est une réalité. Il faut la dire, parce que si on ne la dit pas, on se cache une partie de ce qui est en train de se dérouler en France.
Hé, venez! M'avancez par là, on s'en fout de Le Pen! Ouais. Tous par là! Allez, venez!
Si vous direz à votre radio que c'est dommage qu'une marche silencieuse qui ait autant de bruit.
Oui.
Ça a crié sans arrêt crié tout à l'heure. C'est dommage, hein, quand même. Hein. On devrait marcher tout calmement. Hein.
Non, non.
C'est vrai que c'est agité, là. Hein.
C'est agité, hein. C'est pas normal. Hein.
Reculez, oui. Messieurs-dames, reculez dans le sens inverse, vous allez vous faire mal. Montez sur le trottoir.
On s'arrête pour lire la pancarte d'un monsieur.
Très bien.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Très bien.
Aux antisémites imbéciles, pléonasme, la communauté juive, c'est 16 millions d'individus environ. À ceux qui leur prêtent une soi-disant puissante domination qu'il faudrait contrebalancer, voire tuer, demandeur la liste exhaustive de leur place dans notre société et qui la compare à tous les non-juifs. Je suis juif comme je pourrais être protestant, catholique, musulman ou bouddhiste et je m'en tire en... Aucune fierté et je vous emmerde. Tout le monde s'arrête pour lire votre pancarte.
Oh, tout le monde, j'en sais rien, non, mais
il y a
bon,
du monde quand même.
Ouais, c'est possible, mais bon, c'est fait un peu pour, mais bon, c'est pas grave.
C'est comment votre prénom?
Olivier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, depuis des années, qui parlent du complot judéo-maçonnique et autres. Bon, il se trouve que là, il y a une manifestation de la communauté juive. Mais arrêtez de nous faire chier, de nous prêter je ne sais quelle puissance. Il y avait une réunion dans un club soufi près de la maison, puis il y avait une femme qui parlait et qui, je sais pas, un moment, je sais plus ce qu'elle racontait, puis je lui ai dit, mais vous savez combien il y a de juifs dans le monde? Je lui ai dit, il y en a 16 millions. Et donc je lui ai dit ce que j'ai écrit, puis elle me dit, ouais, mais il y a Strauss-Kahn. Enfin, putain, quelle conne, quoi. Enfin, c'est complètement con de dire la communauté juive, ça se résume à Strauss-Kahn. Enfin, il n'y a pas que ça.
Tous les juifs ont du pouvoir,
Ce qui se développe dans les théories du complot, hein, en gros.
Du complot, j'en sais rien. Enfin, chez les imbéciles, oui. Enfin, j'ai envie de dire chez les cons, bon, qui sont assez nombreux, y compris dans notre communauté. Rassurez-vous, on a ça comme... Il y a très longtemps, j'avais entendu un reportage en Israël où on interrogeait un chef d'entreprise israélien et qui racontait « moi, j'embauche que des juifs ». Et je me suis dit, finalement, c'est du Le Pen version israélienne. Bon, je veux dire, un juif aussi con que ça, je me dis que c'est pas la peine, quoi. Enfin, on a beau dire c'est le peuple élu, mais enfin, pour moi, ils sont aussi cons. Enfin, certains peuvent partager la palme avec d'autres, hein. Pas de problème. Je suis juif, mon père était de confession juive, ma mère catholique. Je veux dire, je me sens juif. Et si demain, il y avait des déportations, je ferais comme Gainsbourg, je dirais, vous me donnez l'étoile jaune. Et je prendrais une pancarte et je dirais, je suis juif et je vous emmerde. Vous pouvez me tuer, mais j'ai rien à foutre. Je vous emmerde quand même, quoi. Mais je partage pas du tout les positions du CRIF. Et je suis, par exemple, pour la disparition de l'État d'Israël. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on donne Israël à qui veut et que les communautés juives aillent vivre partout dans le monde comme c'était le cas avant. Et que les États aient l'obligation de protéger les communautés juives comme ils ont l'obligation de protéger d'autres communautés. Parce qu'en vivant à l'étranger, on va s'enrichir de la culture des pays locaux. Et je trouve ça plus intéressant que de dire « je suis israélien, je vais défendre ma terre et machin et... ». Moi, à la limite, bon, si les gens veulent qu'Israël continue d'exister, pourquoi pas? Mais qu'on donne aux Palestiniens le droit de vivre sur cette terre aussi.
Vous seriez pour un État binational
Binational ou simplement donne ça aux Palestiniens. On s'en fout. L'essentiel est de continuer de vivre et d'être respecté en tant qu'individu. Mais je vous tiendrai le même discours pour d'autres communautés ou d'autres nationalités, quoi. C'est tout. On respecte l'individu. Voilà.
J'aime bien ce que vous écrivez. Là,
je vous en prie.
En arabe, Al-Amak. D'accord avec toi. J'étais ce matin à l'hommage aux Invalides.
Ah oui,
d'accord. Ça, c'est mon képi, je n'ai pas le droit de le porter.
Ah, c'est vrai, sans blague. Pourquoi vous n'avez pas le droit de le porter?
C'est les ordres, hein. Moi j'obéis aux ordres.
C'est con, hein, de temps en temps, l'armée. Hein.
Non, c'est pas l'armée, c'est le gouvernement.
C'est le gouvernement.
C'est le gouvernement, c'est pas la gendarmerie.
Ah,
les galants de colonel. Là.
Ah ouais.
Je précise que je descends de 5 familles juives et que je suis un des membres ayant participé à la fondation du Front National.
Oui.
On n'a jamais été antisémite. On n'a jamais été antisémite. C'est complètement con. C'est complètement con. Les gens qui sont manipulés là-bas.
Le Pen, enfin, quand il parlait de, je sais pas, de détails de l'histoire pour les chambres à gaz et autres, comment ça vous...
D'abord, le mot détail, il aurait dû se méfier dans son langage. Il aurait dû être méfiant. Il aurait dû dire, oui, c'est un élément. Et c'est vrai. Le drame horrible des Juifs, c'est un des éléments du deuxième conflit mondial. C'est un des éléments probablement les plus graves. Mais il n'y a pas eu que ça, quand même. De résumer toute la deuxième guerre. Il y a eu 7 millions de Polonais aussi. Oui. Il y a eu 25 millions de Russes aussi. Voilà. Ils comptent aussi.
Oui. Au-delà de la Shoah, ce qui est dégueulasse, c'est l'extermination des peuples. Comme il y a eu le massacre des Tutsis, etc., etc. C'est tout ça qui est scandaleux. Bon, le rêve.
Alors moi qui suis chrétien, le peuple juif, c'est pour moi, c'est le peuple sacré. Il nous a fait reconnaître le Dieu unique. Hein. C'est Moïse. Moïse devant le buisson ardent à plat ventre. Mm. Et puis alors bon, faut voir tout ce qu'a produit le peuple juif, comme savants, etc.
Oui, mais
enfin,
les
musulmans, alors...
Non, mais à propos des musulmans, il faudrait que vous lisiez un bouquin que j'ai lu il y a très longtemps. C'est ce que l'Occident doit aux Arabes d'Espagne ou un truc comme ça. Donc, pour moi, les musulmans ne sont pas que des connards, quoi. Voilà.
Vous êtes dans l'armée?
Dans la réserve. Je m'occupe de pays arabes. Toutes les chances qu'ils préparent, que les gens préparent là-bas, y compris contre ceux qui sont contre mes amis Netanyahou et tout ça. Ouais. Surtout Lieberman, moi, mon copain à moi, c'est Lieberman. Advigor Lieberman.
Enfin, je sais pas, moi, en Israël, les gens que j'aimais bien, c'était les Shimon Peres et autres, quoi, Golda Meir.
Ah,
bon, enfin, même si c'est un peu trop sioniste, mais bon, c'est plutôt véreux que bon, mais sympathique, quoi.
Moi, c'est Advigor Lieberman.
Vous n'êtes pas sur la même ligne, là.
Non, pas trop, non.
C'est assez... droite radicale.
Allez, salut.
Bon, allez.
En arabe, il est d'accord. Allez, les gars.
OK.
Ne criez pas sur les toits que je suis... Non, mais il y a des minorités de gauchistes que les gens se font manipuler, là, autour de Marine Le Pen. L'insulter, etc. C'est complètement idiot. OK. Salut.
Bonne journée.
Salam. Salut.
À bientôt, au revoir.
Tout le monde s'arrête, hein, de votre...
Oh, tous, j'en sais
rien. Ah, quand même, hein,
regardez. Ouais, bon, tant mieux. Comme disait, Léo Ferré, j'aimais bien dans une de ses chansons, là, c'était « Transbahuter vos idées comme de la drogue, rien dans les mains, rien dans la poche, tout dans la tronche, comment vous nommez-vous Karl Marx, allez, passez !» Et je me dis que c'est ce qu'il faut faire, quoi. Balancer des idées en espérant que ça essaime et c'est tout, quoi.
Écoute, écoute. Dans le silence de la mer, il y a comme un balancement maudit qui vous met le cœur à l'heure, avec le sable qui se remonte un peu, comme les vieilles putes qui remontent leur peau, qui tirent la couverture, immobile. L'immobilité, ça dérange le siècle. C'est un peu le sourire de la vitesse, et ça sourit pas l'erge, la vitesse, en ces temps.
Ah bah voilà, ça continue.
Fasciste, casse-toi ! Ah bah oui, qui court !
Parti de plus d'aider !
Merci !
Merci !
D'immigrés, dehors, dehors, le Front National.
Les chambres à gaz, c'est pas un détail, salope.
C'est bien reçu.
C'est honteux.
C'est honteux qu'elle soit là.
Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle croit, qu'on va l'accueillir avec des fleurs?
Pourtant, elle a fait quand même beaucoup d'efforts pour expliquer qu'elle n'était pas comme son père. Elle a condamné les propos de son père. Elle a fait des efforts quand même. Elle a essayé de...
On la voit en Allemagne avec les gens de l'extrême droite.
En Autriche avec les néo-nazis. Non, non, mais attendez, l'idéologie, elle est là. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Il faudrait être très naïf quand même pour le croire. Il y a beaucoup de gens naïfs, malheureusement.
Par exemple, le fils de Madame Knoll, il disait qu'elle était trop naïve d'ouvrir sa porte comme ça à tout le monde. C'est comme ça que c'est arrivé.
Bah, trop naïve, non. Elle avait sympathisé avec ce jeune homme. Alors, c'est à se demander si on n'a plus le droit de sympathiser avec un jeune d'une autre religion, musulman en l'occurrence, parce qu'on va tous avoir peur maintenant d'être assassinés. C'est terrifiant.
Vous allez continuer à avoir des amis dans toutes les religions sans...
Tout à fait.
Bah oui, bah moi j'ai peur quand même. Je suis toute seule. Et j'ai quelqu'un qui m'aide pour faire les travaux, il est musulman, ben, mes enfants ils me disent « Maman, fais attention, lui il est très sympa, mais le jeune qu'elle connaissait aussi, la dame, il était très sympa. Elle le recevait, elle mangeait avec elle. Ben, je vous avoue que j'ai un peu la trouille, moi. Je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine fois que j'aurai besoin de petits travaux, mais bon. Il y a Madame Halimi qui a été défenestrée aussi, donc...
Habiter 100 mètres plus haut.
Oui, oui, que j'y avais pensé aussi, mais... Je me suis dit, il ne faut pas rentrer dans ces trucs-là, et ceci, cela. Mais bon, là, j'avoue que...
Deux fois, ça fait beaucoup, déjà.
Voilà.
Vous, vous n'avez pas peur, vous ?
Non. J'ai vécu toute ma jeunesse dans la peur des gens à cause de ça. Donc maintenant, c'est fini, quand même.
Pourquoi vous dites ça ?
Bah, je suis juive. Mes parents ont été déportés à Auschwitz. Ce sont des survivants. Moi, on m'a dit de ne pas dire que j'étais juive quand j'étais petite. Donc ça, voilà, ça entraîne un sentiment d'insécurité et de peur. Alors, j'ai toujours voulu penser qu'en France, on était protégés maintenant, mais bon, voilà. Aujourd'hui, je dirais que je n'en suis plus si sûre. J'en veux à personne, je me dis que le monde est terrible, le monde est comme ça, voilà. Et les hommes sont des barbares.
Comment ça se fait qu'il y a une sorte de regain comme ça d'antisémitisme à
votre
avis ? Je crois
qu'il y a un regain, je pense que ça n'a jamais disparu, mais du fait... de ce qui s'était passé pendant la guerre. Il y avait une gêne à l'exprimer et l'idéologie islamiste radicalisée permet aujourd'hui aux gens d'exprimer cette haine. Je pense qu'elle a toujours existé. Sinon, comment expliquer ce qui s'est passé pendant la dernière guerre et pourquoi on a tué 6 millions de personnes? Mais quand on s'en prend aux gens simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont et qu'ils existent, comment expliquer ça?
Passer le cordon policier, on est devant un quartier HLM.
Casse-toi ! Rentre chez toi ! J'ai pas le bien fini dans l'ancien arrondissement ! Marine, rentre chez moi !
J'en sors des immeubles pour huer Marine Le Pen.
Marine, j'ai pas le bien fini ! Casse-toi, Marine !
Allez, on descend !
Tu vas bien?
Ouais, tu vas bien? Tranquille?
C'est quel terrain?
C'est la radio!
Interviewer lui, c'est un rappeur. Bon. S'il passe à la radio, ils vont tous écouter.
Mais on est où ici? C'est quoi là?
C'est un foyer, c'est un foyer de jeunes.
C'est un foyer de jeunes travailleurs. Franchement, on essaye de calmer les choses parce que là, c'est pas le moment de crier, de lancer des provocations.
Vous habitez ici tous les deux?
Non, pas du tout. On habite dans la cité juste à côté et on connaît un peu les jeunes. Et voilà, on essaye de les calmer comme on peut.
Pourquoi?
Parce que là, c'est un moment de recueillement. C'est pas le moment de lancer des provocations, etc.
Parce qu'eux, ils criaient contre Marine Le Pen.
Ah, ils criaient contre... Ah, moi, j'avais pas...
Et Marine Le Pen, un peu plus loin, là-haut.
Ah, d'accord. Bah là, franchement, je suis de leur côté. Parce que, franchement, je l'apprécie pas trop, Madame Marine. Hein.
Vous étiez dans la marche?
Non, pas du tout. Je suis voisin. Mais franchement, je respecte.
La marche
comme, voilà. J'ai perdu des amis, moi. On a fait des marches et j'aurais aimé qu'on respecte. Donc là, je respecte.
Vous avez perdu des amis
Dans des guerres de quartier.
Et vous, pour la marche, pour vos amis qui sont morts, il y avait autant de monde?
Non, il n'y avait pas autant de monde. Il n'y avait que les connaissances et quelques personnes qui connaissaient seulement, mais pas plus. Mais franchement, là, je trouve que c'est bien. Les gens, ils sont soudés. Là, on peut entendre les gens qui sifflent Marine Le Pen. Écoutez, Belek, quelque chose à dire sur Marine?
Marine, rentre chez toi, t'es pas la bienvenue, Marine!
Parce qu'au départ, ils pensaient que vous huiez la manifestation, en fait. Pour la vieille dame.
Non, pas du tout. C'est pas gentil. La vieille, il en fait comme ça, c'est pas trop gentil. Voilà.
C'est plus que pas gentil, 12 coups de couteau.
Ouais, c'est criminel. Je soutiens la marche et on est contre Marine.
En direct de la Radio France.
On vous souhaite bon courage et allez la France.
Merci.
Bonne journée à nos confrères de Radio France.
Bonne journée.
Bonne journée, madame. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
On en a ras-le-bol des marches. Moi, je suis un des organisateurs de Pour Ilan Halimi tous les ans. On est fatigué. Des banderoles, du kadish, des prières pour les morts, d'allumer les bougies, les marches, on en a marre. Aujourd'hui, on veut passer à l'action. Ça suffit, les discours. Il faut arrêter les discours. Il faut vraiment prendre des mesures radicales. C'est ça le plus important.
Le rassemblement est terminé. Il y a encore quelques poches de personnes qui continuent de discuter devant l'immeuble où vivait la vieille dame. Il y a des bouquets de fleurs, de roses blanches, accrochées à la grille. Repose en paix, Mireille. Mireille Knoll, ni oubli ni pardon.
Oh mon Dieu, c'est ici. Je
vais
aller me recueillir.
Oh mon Dieu.
Est-ce que je pourrais aller me recueillir deux minutes, là?
Pour l'instant, vous ne pouvez pas passer, madame. Il faut juste attendre un petit peu. Je pense que ça va se décanter.
C'est à cause de ça qu'il y a une chaise.
Les autres, ils sont un peu loin. Mais moi, je vais retirer le brassard tout à l'heure, puisque comme tu sais, comme ils me menacent, ils veulent me tuer, je ne veux pas être seul quand sûrement ils m'attendent. Donc, je vais partir tout à l'heure. Bon, attends, je te rappelle quand je serai dans la voiture.
Moi, vous participiez à la manifestation aussi?
Oui.
Vous faisiez partie de la sécurité?
Oui.
Ça a été un peu tendu quand même.
C'était plus que tendu, c'était un peu tordu. C'est-à-dire que les Juifs qui, normalement, ont souffert sous M. Le Pen, lorsqu'on voit que maintenant Marine Le Pen vient se recueillir et que ce sont un cordon de Juifs qui doivent la protéger, c'était la seule manière, sinon les CRS eux-mêmes ne pourraient pas la protéger, puisque toute la foule avançait sur elle. Ils auraient sûrement dû frapper les gens qui venaient se recueillir pour pouvoir protéger Marine. Donc pour ne pas que ça se fasse, il a fallu que la LDJ et les autres services de sécurité juifs protège Marine Le Pen. C'est un peu fou, ça.
Vous faites partie de la LDJ, vous?
Je ne vais pas répondre à cette question, madame.
Ah, mais vous, on vous a menacé, c'est ce que vous expliquez?
Oui, je suis sioniste, je défends Israël, donc on menace moi, mes enfants, ma famille. Ils mettent des photos sur Periscope, sur Facebook, sur partout. Ils disent que je suis le sale nègre carlouche à abattre, à tuer, le sale sioniste. Donc voilà. Le kelb, le chien. Le chien, le suceur de juifs, comme ça qu'ils m'appellent. Qui? Mais vous pensez que c'est qui? Ce ne sont pas les bouddhistes, je vais vous dire ça. Donc voilà. Moi, je suis pasteur. Dans un débat, j'ai juste parlé. Et là, ils disent que je suis islamophobe. Mais tout chrétien est obligé de se lier à Israël, se lier aux juifs et les protéger jusqu'à la dernière goutte de sang. Voilà. Jusqu'à ton dernier souffle, tu es obligé. Celui qui bénit Abraham est béni, celui qui maudit Abraham est maudit. Donc quand je vois que 12 juifs ont été tués, et par 12 personnes de confession musulmane, noires certains comme moi, et certains arabes ou autres, il y a un problème. On ne peut pas exclure l'islam de l'affaire quand même. Les juifs ne sont pas considérés comme des Français quand ils sont tués, quand on a brûlé Sarcelles.
Et pourtant,
on est français, on est là.
Chez nous,
on est français, on a été éduqués dans la mentalité française.
Vous avez été. Je suis d'accord avec vous.
On est français.
Mais est-ce que les Français vous voient comme français?
Vous, par exemple, parmi vos amis non-juifs, les gens, ils vous font remarquer systématiquement que vous êtes juif?
Non, on est. Mais franchement, je ne comprends pas, en fait, ces histoires d'antisémitisme, parce qu'on est tous français, enfin, notre génération, on est tous français, on est nés en France, donc on se doit respecter les lois françaises et les droits français de chacun. Moi-même, ma mère, elle me dit, n'étale pas trop ta religion, parce qu'on ne sait jamais, et tout. Mais je me dis, mais pourquoi, en fait? C'est triste qu'il y ait des gens qui aient cette mentalité, parce qu'au fond, c'est pas pis. Send love, monde des bisounours, mais on se doit de s'aimer parce que, enfin, un pays avec de la haine, c'est triste, il faut être en symbiose quand même. Et c'est dommage parce que moi qui ai 18 ans, je sais pas, vivre dans un monde comme ça, je me dis, bah merde, la France elle va où? Même si cette dame elle était pas juive, bah ça aurait été la même chose, ça aurait été aussi triste et on aurait fait la même marche parce que c'est une personne française et que le peuple français il doit se révolter par rapport à des actes comme ça parce que c'est une française et dans. Liberté, égalité, fraternité. Le mot fraternité, il sert à quoi si on n'est pas là à représenter la vie de cette dame, quoi. C'est tout.
Juif. Arabe. Juif. Arabe. Arabe. Juif. Juif. Arabe. Ensemble. Ensemble.